Bonsoir, chers auditeurs. Nous sommes live pour ce débrief avec Samuel Rasmussen dans la plateforme Yann et Frank. Bonsoir tout le monde. Non, contrairement au thumbnail, j'ai pas la face de Jeff Bezos dans South Park. J'ai ma surface crânienne est encore de taille normale, je vous le confirme. Malgré que je la trouve fort hilarante. Merci à Frank pour le thumbnail, ça m'a fait bien rire tout à l'heure. Écoutez, ce soir, on parle avec un expert, M. Samuel Rasmussen, qui va analyser le bourgeon, la création ou l'apparition d'un nouveau parti communiste révolutionnaire au Québec, plus précisément, bien évidemment, et sans surprise, sur l'île aux génies.
Le bourgeon des anti-bourgeois.
Oui, le bourgeon anti-bourgeois. C'est mon slogan, ça. Hey, faut vite, faites des copyrights, faut incorporer ça avec les communistes.
Copyright? Attends un peu, je comprends pas. Droit de propriété? Je comprends pas.
Ah, t'as bien raison. C'est vrai, tout est collectif. Hein? Tout est relatif et tout est collectif. ben oui, c'est ça. Il y avait un rassemblement de plus de, au moins, entre 400 et 600 jeunes militants marxistes, communistes, socialistes et toutes les is possibles, sauf quand c'est de droite. Ben, ils se sont regroupés à Montréal et ont créé la nouvelle fondation, en fait, un nouveau parti politique qui devrait être vu, ben, selon eux, bien évidemment, sur la scène québécoise dans les prochaines années. On vous présente ça et disons que Sam va falloir l'attacher avec de la broche puis avec 3-4 cordes parce que je pense qu'il a trop hâte d'en jaser lui-même qui a, un peu comme Obélix, qui a tombé dans la marmite commune. À un certain moment, mais il en a survécu, mesdames et messieurs. Et il n'a pas eu le surpoids qui venait avec. Fait que, officiellement, je déclare ce débrief officiellement ouvert. Ben oui, la nouvelle nous est sortie, en fait. Hey, good job à Novo Info, parce que sérieusement, si on n'aurait pas eu ça d'eux autres, Ratcan et TVA, à l'époque, on n'aurait jamais su qu'il y aurait eu ce... En tout cas, il n'y aurait jamais eu de coverage relié à cet événement-là. Donc, ils ont fait leur travail. Et on parle ici, bien évidemment, ça date du 27 février dernier, donc pas très longtemps de ça, environ une semaine. Plus de 600 personnes se sont réunies dans ce qu'ils appellent l'École marxiste d'hiver de Montréal. Hey, ça fait tellement soviétique, parce que tu sais, une école marxiste d'été, ça marche pas, ça fout le temps. Je sais, tu sais ce que je veux dire. Il faut que ça prenne le côté nordique, ça prend...
Vodka,
c'est ça, de la vodka, ça prend, faut qu'il y ait quelque chose avec le mois d'octobre quelque part là-dedans, là, the Red October, là, tu sais, on... Ah, mais c'est spécial, parce que, écoutez, par droit d'auteur, bien évidemment, on passera pas le reportage, vous pouvez toujours aller le revoir, il est disponible sur Novo Info, pour ceux qui s'intéressent. Mais notre cher ami, en fait, vous avez vu un peu ce que j'appelle à le nommer, en fait, c'est M. Vincent R. Baudouin, renommé Vincent Monaghan, ce que j'appelle personnellement... Monaghan, que j'ai renommé personnellement Rasputin 2.0. En honneur de sa barbe assez prombérante. Mais en fait, leur argument, puis je vais te laisser aller là-dessus, Sam, je sais que t'es plus capable d'attendre pour répondre à tout ça, ils disent qu'il y avait un sondage de l'Institut Fraser de pas très longtemps disant qu'il y avait beaucoup, plus de la moitié des jeunes, on parle pas des, je sais pas si c'est des 18-24 ans ou dans ce coin-là, qui sont intéressés ou sont appelés vers le socialisme. Donc, eux, les communistes, se considèrent comme « Ah! Il y a un terreau fertile à aller chercher. » Donc, je te laisse.
Mais bien évidemment, je pourrais vous dire, écoutez, je vais d'entrée de jeu, je ne serai pas vraiment très généreux. Je ne vois pas que ces individus sont crétins ou qu'ils sont moins intelligents que les autres, bien au contraire. Par contre, le romantisme est à son apogée quand on est jeune. On n'a jamais trempé dans le prolétariat, tu sais, ça défend l'homme, pas le prolétariat. La classe ouvrière, le marteau et la faucille. L'agriculteur au même titre que celui qui est sur la machine à vapeur ou le mineur dans les chaînes, dans les usines de charbon, alors que dans les mines de charbon, pardon. Et voilà, on est en 1840. Non, on est en 2024. Curieusement, la moitié des jeunes s'intéresseraient à ça. Bon, il est fort possible. Il est fort possible que le romantisme et enchevêtrer ces jeunes-là qui sont aux prises avec leur passion. Pour devenir communiste, il faut y avoir un certain gage là, d'idéalisme et de rêverie Parce qu'aller seulement dans une manifestation, c'est une messe. C'est tout à fait une messe. Tout simplement, les slogans, vous avez, ce que tu m'avais envoyé, là, c'est toujours des... Je pense que c'est sur Instagram, je pense,
parler oui, de... Veux-tu qu'on le passe tout de suite, mon cher?
Ou... Oui, oui, ben oui. Mettons carte sur table en montrant ce qui
s'est passé. C'est ça, parce qu'en fait, on a... crédit à Frank, quand même, qui a fait certaines recherches pour découvrir le creuset le plus profond de cette ruche communiste. Eh bien, on parle d'un compte Instagram qui s'appelle Communiste Sherbrooke. Ton patelin, mon cher Sam.
Je suis tanné. Il y a Québec solidaire dans mon patelin. Il y a le Parti libéral dans mon patelin. Et il y a une mère presque communiste, quand même.
Elle est très socialiste. Moi, c'est ça. Donc, il y a plusieurs vidéos, bien évidemment, de ce fameux congrès-là qu'on a parlé, de différents individus, et il y en a un dont le nom m'échappe complètement. Mon but, c'est pas d'attaquer. Le but n'est pas ici, on tient à le préciser, le but n'est pas d'attaquer la personne. J'ignore, c'est un jeune homme, j'assume, d'un peu moins de 25 ans, disons comme ça. J'analyserai davantage le discours que l'individu qui le dit. Mais ça en dit très long en 2024, les communistes d'aujourd'hui. Donc, ça va comme suit.
Les sont produits par 100 entreprises. Notre futur est entre les mains d'une poignée de compagnies privées. Et ces gens-là, tout ce qu'ils sont capables de penser, c'est les profits. Ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir rasé toutes les forêts, pollué tous les océans. Ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir fait de notre planète un immense dépotoir sans vie. Pendant ce temps-là, les politiciens ils nous proposent quoi? Le troisième lien, le pipeline Trans Mountain puis l'usine Northvolt. Ils prennent l'argent des contribuables pour financer des projets de greenwashing au profit des actionnaires. On ne peut pas continuer à juste supplier les patrons et les politiciens. On n'a plus le temps pour ça. Il faut les renverser.
Yeah!
Il faut reprendre le contrôle de notre économie de manière démocratique. On a tout ce qu'il faut pour faire la transition vers un monde respectueux de la nature, mais aussi un monde plus juste, sans exploitation, sans oppression et sans classe.
Yeah!
Cette idée-là, ça a un nom. Ça s'appelle le communisme.
Yeah!
Et pour y arriver, on doit se rassembler, on doit s'organiser. On doit construire un parti révolutionnaire capable de mettre à terre le capitalisme. C'est ça qu'on fait à la Révolution communiste. Donc, venez nous rejoindre. La vie avant les profits.
Ce que je disais avec Joey en disant, ben c'est ça, Joey a mis un point assez intéressant. On va faire la révolution démocratique.
Ouais, c'est ça, c'est comme, il faut renverser nos gouvernements démocratiquement. C'est alors, comme, voyons!
Parce qu'il y a plusieurs choses que greenwashing, je suis prêt à lui donner. Je vais commencer d'emblée avec, ouais. Comme si c'était un adversaire.
Ben, c'est juste que ce que je trouve funny, c'est qu'on met un pont routier entre un pont routier qui est au-dessus d'un fleuve, un pipeline pétrolier et une usine de batterie sur le même pied d'égalité.
mettons, pour être généreux avec notre adversaire, si c'en est un, le dénominateur commun, c'est que c'est bourré de subventions. Il l'a comparé, comme bien des gens le font, même dans la social-démocratie, le corporatisme avec le dangereux capitalisme. Il a raison par rapport au greenwashing, tout à fait. Par contre, ce qui est assez intéressant dans son discours, c'est que c'est du vert. On voyait une belle pomme du vert, mais à l'intérieur, c'est exactement plein de rouge, le rouge communiste. Ce qu'on voit aussi, c'est que Québec solidaire se fait dépasser par sa gauche. Alors, ce que j'aimerais savoir des communistes de Sherbrooke ou d'ailleurs au Québec, Québec solidaire se veut-il être un parti révisionniste, un parti où ce que le parlementarisme serait une logique bourgeoise? Est-ce que j'ai entendu ça? Ou bien ça va se greffer, comme ça s'est déjà fait avec le Parti conservateur, mais communiste du Québec, à l'intérieur même de Québec solidaire?
C'est ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que dans le reportage de nouveau, monsieur Monahan Rasputin, lui, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il a milité longtemps à Québec solidaire, no surprise here, mais il disait que selon lui, Québec solidaire était devenu trop... se normalisait trop, se centrisait trop selon ses positions personnelles. devenait trop un peu un parti, je n'allais pas dire d'establishment, je ne prendrais pas, c'est pas ces mots qu'il a dit, mais en fait, c'est que plus en plus... Oui, oui, je sais, mais une genre de... Ce que j'appelle, dans mon jargon politique à moi, des communistes à cravate. C'est que, en fait, ben, selon lui, ce ne sont pas des communistes, vous comprenez ce que je veux dire, mais dans le sens que on est loin du mouvement révolutionnaire proche du travailleur de l'usine ou du citoyen ou de l'agriculteur. On est plus dans des centres vegan de la rue Saint-Denis à Montréal et dans certains parcs Émilie-Gamelin.
C'est ça. Ça, c'est la lutte communiste, c'est en bourgeoisie. Parce c'est qu'on s'entend, les communistes ne se retrouvent pas dans les usines, ne se retrouvent pas dans les champs avec les travailleurs immigrés, ne se trouvent pas avec la masse laborieuse, le prolétariat, parce que un mineur au nord du Québec va gagner pas mal plus cher. Fait que là, qu'est-ce qui nous reste là, dans la classe ouvrière qu'on doit défendre? Ben, c'est souvent les travailleurs immigrés, pourquoi pas, les travailleurs dans les dépanneurs et tout ça. Mais tout ce beau monde-là, habituellement, c'est temporaire. C'est des jobs temporaires. C'est-à-dire, on s'entend, c'est nul besoin d'insulter les gens qui sont là plus longtemps dans ces jobs-là. Mais majoritairement du temps, on retrouve des ouvriers qualifiés. Je veux dire, présentement, le salaire médian au Québec, il est quoi, de 50, 55 000? On est bon. C'est très compréhensible. On a présentement une crise du logement, on a une crise peut-être de l'écologie. J'essaie de comprendre. Mais il n'y a pas de crise de chômage. Il n'y a pas de crise de la masse laborieuse, parce que la masse laborieuse, mais non, c'est ça, elle travaille beaucoup. Oui, elle paye beaucoup d'impôts. Et que là, l'impôt. L'impôt, c'est-tu capitaliste? Non, c'est l'État. C'est l'État qui charge l'impôt. Alors, on parle souvent de l'État... J'ai quasiment l'impression d'entendre un discours très anarchiste, mais non, il parle de communisme. Mais le grand mythe du communisme, c'est quoi? C'est, comme ce qu'il l'a mentionné, l'abolition des classes sociales. Et que le grand mythe, c'est quoi?
L'homme nouveau.
Oui, l'homme nouveau, exactement. Mais ça... vous savez autant que moi qu'il y a eu à peu près une trentaine, sinon une quarantaine, de pays qui ont échoué le communisme, et à chaque fois... c'est « ce n'est pas du vrai communisme ». Donc, les voici, les voilà. L'Union soviétique, elle s'est écroulée. La République populaire de Chine s'est rendue un corporatisme d'État. Cuba, à part le nickel puis le tourisme, marche moins. Vietnam, ce n'est plus communiste. La Corée du Nord, ils ont de la misère. Ils vendent des bombes en échange.
Certains diraient sont plus isolationnistes que communistes.
C'est de l'isolationnisme absolu. Je veux dire, un des pays les plus
isolationnistes sur le crack.
Oui, exactement. La Yougoslavie, bon, ça s'est scindé, la Serbie, la Croatie, etc. Donc, c'est tombé sous le maréchal Tito par après. La Hongrie, ce n'est plus le cas, c'est rendu les nationalistes qui sont au pouvoir. La République allemande, la RDA, ben, vous savez qu'en 89, le mur tombe. La Tanzanie, sous Joseph Nyerere, c'est plus le cas. Le Nicaragua avec les Sandinistes et, bien sûr, le Venezuela présentement. On sait bon. Que là, ça va très, très mal. Oui, j'ai dit Cuba.
Ah, tu as dit ce que je suis. J'ai celui-là.
Fait qu'il y a beaucoup de choses, puis à chaque fois, ce n'est pas du vrai communisme. J'en ai parlé un peu avant d'entrer dans le podcast avec Joey. J'ai fait avec Frank le mois passé, ou il y a 3-4 semaines, 2-3 semaines, bref, j'ai
fait la
question du temps, c'est ça, sur la mort, le 100e anniversaire de la mort de Lénine. Et là, ces gens-là défendent librement le créateur du goulag. Il est quand même assez extraordinaire. C'est lui qui a fondé le marxisme-léninisme. Sinon, il n'y aurait pas de léninisme. Mais c'est bon. C'est plutôt son successeur qui a initié l'idolâtrie de Lénine et de Marx, qui sont deux dieux par-dessus le marché. Mais là, 600 personnes, revenez au sujet principal et de l'actualité, 600 personnes qui se regroupent, ça me fait quasiment penser à une assemblée de cégep. Actuellement, on vote pour que ça soit une grève, hein? Les grèves, c'est tout le monde ensemble, parce que ensemble, on est tellement fort. C'est beau d'entendre les slogans, puis les gens avec les bannières, avec Lénine, avec le drapeau rouge. C'est du romantisme absolu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, un nouveau parti. Pourquoi un nouveau parti? Il y a eu l'Union des communistes libertaires. Avant ça, il y a eu la NEFAC, Northeast Federation Anarcho-Communiste. Il y avait le Parti communiste révolutionnaire. Puis ceux-là, Il avait fait d'ailleurs une...
Attends, t'es en train de me dire que le parti qui présente là, ce serait la version 2.0 de quelque chose qui a déjà existé?
Ben, il y avait le Parti communiste révolutionnaire, comité d'organisation et ben, Parti communiste révolutionnaire.
C'est lequel que le père d'Amir Kadir était dedans?
Le PCR. Oui, c'est ça, c'était le PCR.
C'est celui-là? Oh. OK.
Cas, non, c'est pas une joke en passant. Hein? C'est promené Jafar Kadir. C'est vraiment promené beaucoup. Non, c'est dans le Parti communiste du Québec, Jafar. Jafar Kadir était là-dedans.
OK, puis c'est quoi, ben, pour les non-initiés comme moi et le reste qui nous écoutent, la différence entre le Parti communiste du Québec et le Parti communiste révolutionnaire, c'est...
Ben, lui qu'on parle ou celui-là d'avant?
Ben, celui-là, mettons celui-là... On va venir à celui d'actuel qui vient d'être créé, mais entre...
Ben, celui-là entre d'avant prônait la révolution communiste armée.
OK, fait qu'un était violent, l'autre était prôné la non-violence, c'est ça? Il était plus démocratique, antidémocratique.
Ben le Parti communiste du Québec, il y avait le Parti communiste du Québec marxiste-léniniste qui était pro-fédéraliste et le Parti communiste du Québec avec une autre
c'est pire des pissenlits, ça, Simon.
Ben c'est comme les
dominations chrétiennes aux États-Unis. T'as la Second Southern Baptist Church, puis t'as la,
oui,
t'as la troisième église épiscopale. Oh, c'est
quelque chose. Même pendant l'Union soviétique, t'avais les mancheviks, t'avais les bolcheviks dans le Parti social-démocrate ouvrier russe. T'avais la Makhnovchina qui était des anarcho-communistes. Écoute, c'est une affaire, mon homme. Écoute, excusez-moi si j'en ai perdu, mais c'est ça. Le Parti communiste révolutionnaire jadis était, comme dit Will Not Tell Anyone, était maoïste. Et que le maoïste, ça ne s'inspire pas d'un communiste de gauche, c'est-à-dire on va partir en élection contre les partis bourgeois. Donc, eux, ils n'intègrent pas les rangs de ce parlementarisme-là, de ce ce contre-révolutionnaire-là. Fait que, il y avait des cellules qui étaient un peu des collectifs. Les collectifs, c'était chez l'UCL, puis les cellules étaient dans le Parti communiste révolutionnaire.
Tu me parles de ça, puis j'ai juste l'image du gars avec le mime, avec tous les cordons rouges autour du mur qui présente ça.
Ben oui.
Me semble que si quelqu'un serait assez nice de nous faire ça, pour ceux qui connaissent, savent faire des mimes sur le sens du monde, Marc, mettons, quand Samuel Rasmussen me parle des partis communistes, tu vois l'image du gars avec les threads rouges partout.
Ils sont pas 10 000 là-dedans, tu sais, c'est pas... c'est quand même assez le fun, parce que ça montre idéalement ce que Québec solidaire, ben bref, est-ce qu'ils vont influencer Québec solidaire ou ils vont être une menace potentielle à les dépasser sur la gauche? Je suis curieux.
Mais ça va dépendre combien de leur lunch ils vont gruger.
En 2006, quand Teresa David et Amir Kadir ont fondé Québec solidaire en 2006, avec l'union des forces progressistes du Québec et de l'autre part, option citoyenne. C'était socialiste, féministe et écologie. C'est quoi que ça change, à part le mode? C'est un peu comme les partis souverainistes, c'est-à-dire que t'en as qui sont pressés, t'en as qui sont étapistes. C'est sur le moyen que ça diverge. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'est pas dans la lutte armée révolutionnaire digne de Castro sur la... la Sierra Maestra, ou par exemple digne de Lénine avec ses bolcheviks contre les gardes du Tsar, on n'est plus là-dedans. Mais pourquoi ne pas intégrer tout simplement Québec solidaire? Donc, par contre, Québec solidaire, ils ne défendent pas Lénine, du moins.
Mon feeling d'un point de vue purement extérieur et non communiste, c'est que c'est majoritairement des rejetons de Québec solidaire déçus du fait qu'ils sont de moins en moins révolutionnaires et dits rebelles et de plus en plus embourgeoisés, si je puis dire.
Ben déçu, ben c'est ça. Il aurait fallu rester quoi, 2 ou 3 pour que les communistes révolutionnaires, qui sont pas révolutionnaires, on devrait les appeler les communistes de gauche. Écoute,
faut appeler parce que ça casse l'image. Nous autres, à la droite, on se plaint que QS... Tu sais, quand il va voir ma tante Ronald McDussault à Radio-Canada ou partout dans les médias de subventionnés, qui sont reçus quasiment comme l'abbé sans confession. Ah, c'est-tu pas merveilleux? Waouh! Mais pour des points de vue de rebelles, là, je dis rebelles d'un point de vue idéologique, communistes, c'est pas une bonne nouvelle, parce que, tu sais, si les médias, l'establishment, ceux qui représentent les méchants médias t'aiment, ça veut dire qu'il y a de quoi qui fait pas bien, parce que normalement, t'es censé
prôner
l'idée contraire, ou rebelle.
Je vais vous donner un conseil aux marxistes, trotskistes, bordiguistes, marxistes-léninistes, marxistes-léninistes-trotskistes, internationalistes, communistes de gauche, communistes de conseil, communistes révolutionnaires, ogjiste, c'est envers Ojda. Y en a-tu d'autres? Castriste, ah oui, guévériste, parce que ça a l'air que c'est pas tout à fait la même chose que castriste. Chaviste, pour les gens de Hugo Chavez. Juche, pour la Corée du... Voyez, ça c'est une partie. Qui nous écoute, virgule, ben, le pire ennemi que vous avez à faire, c'est justement le tout-en-un. L'écologiste, le féministe, le ci, le ça, tous ces combats-là vous morcellent et vous fragmentent. Avant, un communiste, c'était quoi? La femme, le noir, l'homosexuel, c'était trois travailleurs. Ils venaient de la classe laborieuse, ils venaient du prolétariat. On faisait quoi? La défense de l'ouvrier face au méchant patron. C'était ça. Bon, c'était plus complexe que ça, mais au moins la logique était simple. Mais là, est-ce qu'il va y avoir un volet LGBTQ+, 8-0 barbecue dans ce nouveau parti-là? Est-ce qu'ils vont faire la même chose? Ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tout va être collé à une logique qui va être unitaire.
C'est ça, c'est du communisme multiculturel à la 2024. Là. C'est un peu...
Mais multiculturel, parce que...
Ben, c'est un drôle de mélange, personnellement. Là. C'est bizarre comme melting pot, personnellement. Là.
Parce que la bonne partie du prolétaire actuellement au Québec, on est loin des, comme je l'ai dit, là, des mines à charbon. Là. La plupart, c'est sûr, commencent à en arracher. C'est sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait plusieurs crises. Mais une montée significative. Ce n'est pas les vieux de 30, 40, 50, 60 ans qui vont embarquer dans cette logique-là. Parce qu'aussitôt que vous avez trempé dans le travail... Vous regardez votre chèque de paye, puis vous regardez votre brut, puis votre net, puis vous dites plus la même chose que quand « Ah, il est aliéné, cet ouvrier-là, on sait bien. » Tu sais, quand le jeune va commencer à combattre son oncle, qui lui s'est acheté une fifth wheel, puis un 4x4, qui fait des voyages dans le sud, je dis pas que c'est tous les ouvriers qui font ça, il y en a qui en arrachent, bien sûr, mais... comment il va pouvoir se défendre en disant « Ah oui, je suis tant aliéné que ça. Ça fait 30 ans que je travaille, ça fait 30 ans que je paye des impôts, puis que l'État m'en demande, puis j'ai jamais eu de service. » Alors comment un État socialiste, qui est le paroxysme de l'État, du modèle de l'État québécois, parce qu'on s'entend, c'est un peu comme sans dire c'est une pente fatale, t'as la social-démocratie qui conjugue le capitalisme et l'État avec le keynésianisme et tout ça, t'as le socialiste qui est un État unitaire qui fait du dirigisme économique au fameux communiste où on devrait abolir la classe sociale puis les partis politiques puis tout le monde vive ensemble. Mais je sais pas, mais en 1917, t'as un gars qui s'appelait Lénine, défendait Lénine, tu sais, donner le pouvoir aux bolcheviks, pardon, au lieu de donner le pouvoir aux soviets. C'était quoi les soviets? C'était des assemblées constituantes d'ouvriers qui s'occupaient de gérer leurs usines. Au lieu de ça, si Vladimir Ilitch Ulyanov, Lénine, a donné le pouvoir aux bolcheviks. Donc, c'est curieux que Rob Sewell défende Lénine 100 ans plus tard, sachant que sa pire erreur, c'était donner à un parti politique qui, de 1917 à 91, a dominé la Russie et plusieurs États satellites au nombre de plusieurs de dizaines de millions de morts. Mais pas du vrai communisme. Mais là, si on défend Lénine, puis c'était pas du vrai communisme, va falloir qu'on signe en bas de la page.
Non, c'est ça. Puis pour ceux qui pensent que c'est uniquement un problème montréalais, ne vous inquiétez pas, nous sommes sûrs dans nos régions, il n'y a aucune, tu sais, ce n'est que marginaux, mais bien, pas il va y avoir, mesdames et messieurs, il y a eu, notre cher homme barbu tout à l'heure, M. Vincent Beaudoin, a eu, jeudi, le 22 février dernier, une conférence au Cégep de Trois-Rivières intitulée « Il faut une révolution communiste ». Regardons ça.
Je vais faire une joke, mais est-ce que le maire de Louisville les attendait avec des battes? Des méchants de dingue, ça? Non, mais non.
Oh, mes excuses. En fait, le jeudi 22, c'était pour l'autre conférence. Mais ça veut dire que c'est arrivé avant ça encore. C'est quelque chose.
Ils font une révolution communiste. Ils parlent encore une révolution communiste, parce que là, si tu me dis par la paix, je suis curieux de voir leur mode opératoire, parce que c'est soit tu passes par les élections ou par les armes.
Ben, ils doivent sûrement prendre le thème révolution comme à la Bernie Sanders, là, la political revolution, là, un peu comme il dit. Ben, là,
une genre de révolution tranquille communiste, hey, c'est tellement merveilleux. Hein?
En plus, surtout que lui, Sanders, c'est plus c'est du democratic socialism. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est de la bouillie pour les chats, là, mais personnellement, en tout cas, pour avoir suivi les deux campagnes de Bernie Sanders 2016-2020 pendant très très longtemps, comme anciennement supporter, parce que oui, c'est sûr, on a tous été jeunes, bien évidemment.
On a tous été jeunes, mais il y a des vieux qui continuent quand même de croire à ces mythes-là, comme que veulent certains vieux péquistes. On s'attache toujours à ces vieilles affaires-là, mais sans jamais... C'est une croyance, c'est une religion. On dit, Marx disait « La religion, c'est l'opium du peuple. » Ben, le communiste, laissez-moi vous dire, c'est le cristalmètre du peuple. Je veux dire, sincèrement, je veux dire...
Des jeunes, peut-être. Cristalmètre des jeunes, peut-être, et plus.
Ouais, il y a encore des vieux qui embarquent là-dedans aussi.
Oh, oui, mais c'est majoritairement des jeunes, on s'entend. Je comprends que c'est pas... Je sais que c'est pas uniquement 100% des 18-34 ans, mais justement, parce que là, comme on l'a dit tout à l'heure, tout... Cet espoir utopique fondé au Canada et dans l'Occident que le communisme peut refaire surface, c'est la fameuse... Étude de l'Institut Fraser. Ben, merci à Louis-Philippe Noël qui nous a envoyé le lien de l'étude en question qui date du 22 février, donc il n'y a pas si longtemps. Perspective sur le capitalisme, je l'ai traduit automatiquement en passant, c'est une étude en anglais bien sûr. Perspective sur le capitalisme et le socialisme, résultat des sondages du Canada, des États-Unis, de l'Australie et du Royaume-Uni. Écoutez, en fait, c'est quand même très long pour ce qui est du reste, mais les principaux points sont un peu ici. Avant de vous montrer le côté capitaliste, parce que... On parle ici de... On demande l'avis des jeunes des 18-34 ans, à la fois sur le capitalisme, mais également sur le communisme aussi. Mais on va commencer avec... le socialisme, pardon, pas le communisme. Et on commence avec le soutien. Je vais essayer de baisser un petit peu. Je vais être capable. OK, la voici. Le soutien au socialisme en tant que système économique idéal est le plus fort chez les 18-34 ans, quel que soit le pays. L'accord total, tout à fait d'accord ou d'accord, sur le fait que le socialisme et le système économique idéal parmi l'accord des 18-34 ans varie entre 43% aux États-Unis à 53% au Royaume-Uni. OK. On parle de, pour ce qui est du, pour le Canada, c'est on parle ici de 46%.
Excuse-moi, on parle de pourcentage, mais c'est quoi l'échantillon de ça?
Bonne question. Je vais essayer de trouver ça.
Voir. Les répondants, tu peux voir, ils ne disent pas.
Peut-être qu'à la... Je vais vérifier peut-être une petite seconde, peut-être juste voir la fin voir de l'article s'il le note l'échantillon en question. Je serais curieux, ils n'ont pas l'air à le dire en tout cas. Mais excusez, parce qu'on lit l'étude en question en même temps que vous, chers auditeurs. Mon but n'est pas de vouloir scraper le momentum ici.
Parce que ça vient de Jason Clemens et Stephen Globerman, donc de l'Institut Fraser. Étonnant. Ça a toujours été un peu comme ça, à vrai dire.
Je veux dire,
qu'on parle des années 60, qu'on parle des années 80. Et donc, si on voit avec l'avancée de l'écologisme ou de l'environnementalisme, peu importe, je pense que ces genres de luttes-là viennent s'intégrer dans ce communisme de gauche, peu importe.
On parle, selon l'Institut Fraser, de 46% en faveur au Canada contre 29%. Pour le capitalisme, maintenant. Là, on parle, en général, c'est ça, on lui parle des États-Unis, bien évidemment, et d'autres pays, on parle de 52% d'accord, 33% désaccord. Le système économique idéal, le système économique, 39% des répondants âgés de 18-34 ans et 60% de ceux qui sont gagnés plus. Voyons voir. C'est ça, c'est vraiment un genre de 50-50, tout dépendant de la tranche d'âge, mais c'est pas tout cuit dans le bec, là. Autant que oui, est-ce qu'il y aura toujours un genre de tendance, comme tu dis, naturelle pour les générations plus jeunes vers une genre d'idéologie un peu utopiste, un peu égalitaire, que Kumbaya, nous sommes tous dans le nouveau jardin d'Éden, peut-être pas seul et tout nu, vous comprenez ce que je veux dire, là?
Mais tu sais, là, c'est dans une époque de nihilisme. Nihil veut dire néant, ce que il n'y a plus vrai. Tu sais, on dit, il n'y a plus de valeur. C'est pas tellement ça, c'est qu'il n'y a plus vraiment de phare qui était la religion, la famille, le travail. Je suis pas en train de dire que c'était mieux avant, là, mais pas du tout. parce qu'il y avait beaucoup de défauts jadis naguère. Mais que fait des jeunes et des vieux qui sont en manque de soutien? Ils vont vers ce qui est le plus protecteur. Donc, le socialisme, c'est quoi? C'est le tout ensemble. C'est l'État qui protège la veuve et l'orphelin. C'est ça, la base, le socialisme. C'est ce qui était censé être ça.
On parle de... Excuse-moi de couper, Sam. On parle de 4037 répondants.
4037, quand même.
C'est ça. De 18 ans et plus, dont 1006 au Canada, 1025 aux États-Unis, 1006 en Australie et 1000 au Royaume-Uni. Puis il y a comme des quotas d'âge de 18-24, 25-34 et 35 et plus. Donc, c'est ça. Merci, Philippe Noël. Ça, c'était vraiment dans l'article complet. C'était plus le
résumé. Un rapport complet, mais je vais lire ça attentivement. D'ailleurs, merci, Louis-Philippe, tout à fait. Ben, c'est ça, c'est pas surprenant, mais un État protecteur, quand on est très jeune, on a encore besoin de quoi? Je veux dire, combien parmi ces jeunes-là sont purement autonomes? Ils ont leur appartement, ils payent leurs affaires, etc.
Payent des impôts!
Ouais, encore là, c'est encore plus minime. Mais c'est pas pour être méprisant. Sincèrement, je pense qu'il y a encore moins de jeunes qu'à mon époque, quand j'ai parti de chez Papa Maman, sont maintenant autonomes. Puis bon, on s'entend, il y a un contexte économique aussi. En train de dire, est-ce qu'on dirait aujourd'hui encore des tanguis? Pas vraiment, parce que bon... Encore là, faut-il que le portefeuille familial ou du moins le travail permette de rentrer d'argent pour essayer de sortir de chez les parents? Combien parmi ceux-là travaillent plus de 35 ou 40 heures? C'est ça l'affaire. Est-ce qu'ils ont trempé un tant soit peu dans le salariat, dans les conditions de... Parce que le message syndicaliste de jadis naguère, là, le communiste, c'était que les ouvriers sont liés par des chaînes au patronat.
Ça levez-vous, vous ne pouvez perdre tout ce que vous avez à perdre, ce sont vos chaînes, et, le fameux cri de Marx. Là.
L'affaire, c'est que ça voudrait dire qu'ils n'ont aucune possibilité de négocier leurs conditions salariales et leurs conditions d'emploi, ce qui est faux. Contrairement à avant, c'était comme « va porter ton nom, on te prend pas, retourne dans le fil, tu reviendras demain ». C'est « va porter ton nom », je pense qu'il y a certaines personnes qui ont connu ça. On va t'essayer une semaine, puis ça marche, c'est bon, on te garde. Tu n'avais pas de contrat de travail, tu n'avais pas la semaine de 40 heures, tu n'avais pas la journée de 8 heures, tu n'avais pas les normes du travail, etc., etc. On dirait que ce discours-là est encore magnifié dans le sens qu'on n'a pas ces protections juridiques-là. C'est-à-dire, si l'exploitation, est-ce que c'est de l'exploitation ou dans un certain sens de la surexploitation? Un travailleur bengali, comparativement à un ouvrier qualifié québécois, c'est deux paires de manches. Il y a la loi au-dessus d'eux, ils ont la capacité de dire « Ah oui, c'est bon. Ben, » Étant donné le taux de chômage, ben, présentement, on est capable de dire ben, « Tu peux aller ailleurs. » Ce qui n'était pas le cas en 1850, ce qui n'était pas le cas où tu n'avais aucune condition. Tu sais.
Ben, c'est alors, ça qui est un peu contradictoire.
C'est ça. Quand tu lis prix, salaire, profit, les manuscrits de 1848, la Sainte Famille, la question juive, le communisme et la paix, peu importe, les ouvrages de Marx, Lénine, Mao, etc., tu te remets dans des conditions où la culture n'était pas la même qu'aujourd'hui, en reproduisant les mêmes schémas. Puis c'est très... Habituellement, c'est très bien expliqué. Je veux dire, lui qui l'a le mieux, c'est Mao. C'est vraiment clair, net et précis, puis ça s'adresse à tout le monde. Contrairement à un Lénine qui, des fois, s'adressait plutôt à une avant-garde. Puis l'avant-garde, c'était qui? Ben, c'était ceux qui savaient lire, puis c'est ceux qui étaient passés par les écoles. Donc, pas l'ouvrier peu qualifié d'une chaîne de montage.
Puis ce qui est un peu contradictoire, comme tu le dis, c'est que les places historiquement aussi, en fait, tu veux que le communisme prenne forme ou prenne racine à un endroit et grandisse. Tu ne vas pas le faire dans un endroit aussi collectiviste et social-démocratisé, semi-surétatisé qu'est le Québec. Tu vas aller dans un endroit de droite très, très, très nationalisé, la Russie, mais à une certaine époque, bien évidemment. Mais tu sais, parce que c'est ça, tout comme on dit, La troisième loi de la relativité dit justement qu'une réaction va créer une réaction égale et opposée à cette dite réaction-là. C'est une des lois de l'univers. Ça marche aussi en politique. C'est que, justement, comme on l'a vu, quand tu pousses trop vers la gauche dans un certain moment, à un moment donné, on ne sait pas combien de temps, mais à un moment donné, le ballon va revenir, puis ça va être un mouvement très à droite qui va faire la compensation de ça, parce que tu t'es trop éloigné du centre. Donc, il y a un mouvement de rééquilibrage qui se crée. Mais justement, si tu veux qu'un parti communiste pogne, faut que tu aies dans un état sur-nationaliste, droite, antisocial, à la limite ultra-capitaliste à côté. Et non, je parle pas des States, parce que les States, ils ont le progressiste comme tout le monde. Vraiment, tu sais, un genre de Turkménistan dictatorial, une place de main. Tu sais, on prend, pour ceux qui ont écouté la série The Man in the High Castle, avec le monde dystopique, où c'est que les nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, ben, il y a une partie de la côte ouest américaine qui appartient désormais aux Japonais. Tu sais, en fait, San Francisco, la Californie, puis tout ça. Et bien sûr, les Japonais sont assez ethno-racialistes pas mal. Fait que les communautés, comme les Amérindiens, les personnes noires ou les personnes de couleur, c'est pas le préféré. Fait que c'est majoritairement des travailleurs blancs et ou, bien sûr, asiatiques qui sont là. Fait qu'il y a un mouvement qui serait, qui s'appelle le BCR, le Black Communist Rebellion. Vous allez me dire, c'est dystopique, ça n'a pas réellement existé, tout ça, mais... Justement, c'est un exemple fictif, mais qui prouve que si ça prend quasiment un genre de d'ethno-state ultra-traditionaliste, anticollectiviste pour créer un genre de fond de réaction inverse comme ça.
Parce que pour voir les conditions d'entrée du communisme en Russie dès 1917, la révolution bolchevique, t'as vu la révolution d'octobre, la révolution de février, bref, peu importe, je vais passer les détails, c'était les tsars. Tsar, il était l'empereur, l'autocrate de toutes les Russies. Il s'était pété à gueule, notamment avec la Première Guerre mondiale.
Le moustache.
Qu'est-ce que la Première Guerre mondiale a été substituée par les nationalistes, le printemps des peuples, etc. Fait que t'arrives où, dans un contexte où le servage qui est un peu ce qui suit après l'esclavage, les paysans étaient liés directement au seigneur. C'est pour ça qu'en Russie, on appelle ça des sujets par ailleurs. Les sujets qui sont des divisions territoriales, c'est tout simplement que le tsar, il y avait le roi, puis le roi est Dieu. Là. Ben, c'est-à-dire le monarque est Dieu dans ce cas-ci. C'était une crise par-dessus crise par-dessus crise. Et de l'autre bord, ben, 20 ans après, je dirais moins de 20 ans après, on a vu ce qui s'est substitué en Allemagne. Pourtant, dans l'entre-deux-guerres, ben, le communisme était le principal opposé de l'hitlérisme et du national-socialisme. Il n'y a pas grand-chose qui les distinguait sauf la logique de race. Et c'est pour ça qu'il y avait le grand complot, le grand complotiste qui était le protocole de sage du Sion, là, c'était que les Juifs dominaient le monde, etc. Ben, ça venait d'où? Ça venait pas de l'Allemagne, ça venait de la Russie. Fait que les conditions d'entrée de ces deux totalitarismes-là, vous lirez les origines du totalitarisme d'Anna Arendt, j'en ai parlé... dans le podcast avec Frank Lojo, ben c'est ça, c'est pour que les germes de ces grands réactionnaires-là, de ces grands réactionnismes-là, puissent arriver au pouvoir, ben c'est ça. Ça prend des formes très radicales de conditions socio-économiques. Ouais, mentionner Pol Pot qui était Salotsar, qui était le chef révolutionnaire du Cambodge, hein, les Khmers Rouges, qui ont littéralement assassiné des gens avec des lunettes pour simple motif que les intellectuels sont des bourgeois, les gens qui lisent sont des bourgeois, les gens qui ont des lunettes sont des bourgeois, donc les bourgeois, il faut les éliminer. C'est ce que Salotsar, aka Pol Pot, a fait.
Ouais, et vous demandez pourquoi il y a eu une éruption de restaurants vietnamiens et cambodgiens et thaïlandais dans les années 70 au Québec. C'est pour cette raison-là.
Ah oui, parce qu'on a reçu leur...
C'est ça, ils ont fui leur régime dictatorial relié à ça.
Mais t'avais pas d'autres pièces à nous montrer là, suite à ça?
Non, ben à part, c'est bien évidemment, c'est sûr qu'il y aurait il y a d'autres clips d'Instagram en question, mais je les ai pas vraiment vérifiés ni checkés. Puis disons que le seul qu'on a passé avec la dite musique, donc je suis pas mal certain qu'on est déjà démonétisé. Mais par la suite, écoute, je peux toujours. Il y a le profil personnel de M. Managan, mais je peux pas entrer dans l'attaque personnelle. Là, c'est ça, mon but, c'est mais pas de faire de la...
Il se montre publiquement, il est responsable de ses propos. Puis je pense que l'homme a plus que 25 ans, là, on est dépassé dans un certain sens. Mais il y a plusieurs mythes que je voulais déposer.
Il y a le fameux site officiel de la. En fait, c'est marxiste.qc.ca.
Oui.
Je vais le présenter ici. Ça n'est pas bien long.
On va faire de la publicité. Hey, c'est incroyable avec les. Je ne sais pas si on a la même chose, mais moi, je vois la lutte contre les oppressions. Tu vois des pièces d'art qui sont presque du brutalisme ou du réalisme soviétique. Tu as la face de Lénine. C'est assez spécial, sincèrement. Bon, les communistes pour la solidarité avec la Palestine, alors que les Palestiniens sont davantage, moins ceux qui dirigent la Palestine sont plus pour une théocratie que le communiste, d'ailleurs. Puis, mettons que les Palestiniens seraient vainqueurs de leur lutte contre Israël. Il est fort probable que ce soit la théocratie qui l'emporte plutôt qu'un socialiste arabe. Parce que tous les socialismes arabes ont été un peu remplacés par ce tribalo-clanisme-là d'islamistes. C'est un peu comme l'Espagne. Il y avait la guerre civile d'Espagne. C'est pas les communistes qui ont emporté. C'est vraiment les nationalistes de Franco. Francisco Franco. Alors, il est fort peu probable que même si vous êtes des LGBTQ+, ou des communistes en faveur de la Palestine, vous allez vous faire ramasser par le Hamas. Vous voulez voir ce que je veux dire, dans le fond, avec ce calembour stupide-là. Mais hey, 600 personnes, c'est pas si gros que ça. Les gens font « 600, comment ça se fait? » Habituellement, ils sont 2-3. L'effet de masse, parce qu'on s'entend, on parle d'aliénation quand on est marxiste, là. Mais l'aliénation dans les masses, c'est un leader autoritaire. Je suis tout petit en bas, c'est bizarre.
Oh. Ouais, ça, c'est un bug. D'habitude, le restream. C'est ça, depuis restream, la seconde qu'on finit une vidéo, on quitte une affaire. D'habitude, ça revient à l'image originale, mais là, il faut que je reclique dessus. Désolé pour
le. C'est pas bien grave. Bon, c'est pas grave. Souci. Et c'est ça, c'est que, autrement, je veux dire. Que ça soit des fans du Canadien en furie qui a gagné ou complètement hystériques qui ont perdu, bref, peu importe, dans les deux sens. Je veux dire, l'effet monstre d'une manifestation, je pense que c'est rarement les gens qui y croient dur comme fer, tu sais. Que ça soit des gens presque fanatiques là-dedans. La plupart du temps, ce sont des suiveux. Je veux dire, sincèrement, là, sur les 600 personnes qui sont dans la salle, 630, 400, peu importe, les plusieurs centaines de personnes qui assistent à l'Assemblée, qui ont lu vraisemblablement les ouvrages, et après, question 2, qui les ont vraiment compris? C'est encore une position, puis j'ai tellement l'impression de répéter, parce que ça fait comme 20 ans que je dis la même chose. Puis même ceux qui les ont lus, puis qui les ont compris, sont pas capables d'assister mentalement à la configuration de ce qui est. Ben dans ce cas-là, c'était 2010, mais là, en 2024.
Il y a beaucoup, je pense que la très grande majorité des gens qui étaient là, s'ils verraient leur dite utopie se réaliser devant leurs yeux, je pense que au premier regard de ce qu'ils verraient, je pense que la très grande majorité, la fossée, puis le marteau, puis les cuissons rouges, et le sacré aux poubelles.
Vous êtes un LGBTQ+, et vous ne renoncez pas à votre individualité? Erreur, vous tombez dans le piège du communisme. Parce que normalement, quand vous êtes LGBTQ+, et que vous vous entichez d'un terme, là, peu importe ce que ce soit du délire ou que ce soit vraisemblablement quelque chose qui vous appartient, que vous avez choisi, ou du moins que vous êtes par appréhension ou par compréhension de votre propre nature, je suis généreux, là. J'essaie de voir ce qui est vraisemblable, ce qui ne l'est pas. Vous tombez dans le communisme qui, comme un uniforme le veut, c'est d'abolir toutes les autres formes. Il aurait été impensable qu'un LGBTQ+, puisse subsister à la Russie communiste. Puis de toute façon, avec Che Guevara sur vos chandails, à quel point il y a eu les répressions et les assassinats d'homosexuels à Cuba. Mais ça, faut pas en parler, c'est pas grave. Hein, le chandail est fait en Chine, la face de Che Guevara de la Sierra. Ah oui, c'est pas plus grave que ça. Vous renoncerez de toute façon à votre individualité. Mais je ne suis pas sûr que vous, qui militez pour une raison ou pour une autre, votre loyer est trop cher, les rénovictions, le capital, le salariat, ça n'a pas de bon sens, je suis endetté, et vous êtes dans une position de rébellion, mais vous n'êtes pas tellement rebelle parce que vous êtes dans l'uniforme de vos pensées, dans votre religion, dans votre rituel, hein, que ce soit les slogans, que ce soit les manifestations, ça tombe dans un collectiviste que vous abandonnez votre propre ego. Et pourtant, il n'y a pas plus égoïste qu'un autoritaire. Un autoritaire qui veut faire à l'autre ce que tu penses réellement, ce qui est mieux pour l'autre que l'autre le sait.
Et il n'y a pas de plus grand capitaliste que les chefs communistes. Dans leur luxure et dans leur...
Les problèmes de logement à Moscou dans les années 30, là, si vous voulez qu'on en parle, là, c'est qui les occupait, les beaux appartements à Moscou? C'était les Tsars rouges, c'était ceux qui étaient justement l'avant-garde. Quand vous me dites communiste de conseil, démocratique, socialiste, peu importe, tu n'auras pas un privilège quand vous voulez abolir tous les privilèges et toutes les classes. Mon œil, ça fait 40 fois. Fait que toi, petit gars, t'as lu même pas le tiers du manifeste du Parti communiste de Karl Marx dans un cours de cégep. Tu vas dire, parce que supposément que Lénine, que Marx, que Mao, que Enver Hoxha, que Castro, que Kim Il-sung se seraient tous trompés, mais toi, petit gars, qui a lu un ou deux livres de Marx, tu vas savoir mieux que tout ce monde-là comment faire une révolution communiste à l'heure actuelle où ce que des gens ont des ordinateurs, à l'heure actuelle où ce que tout est instantané. Sérieusement, vous êtes dans l'illusion absolue. J'allais dire d'autres choses. Mais c'est grave. Il va falloir que vous... D'un, meilleur remède, que vous voyagez parce que vous êtes dans un confort extraordinaire.
Ouais,
que
mais
vous
ouvrez
plusieurs livres, que vous travaillez dans le sens de travailler, là. Pas dans le sens d'être dans la fonction publique, puis écrire 2-3 papiers, puis dire « Moi, je travaille dans le communautaire, puis je dépends de subventions. » Pas ça, là. Travailler 40 heures, 8 à 4, tu es doux. Non,
c'est la grande hypocrisie, c'est que sont leur fameux système capitaliste méchant qui est la source de tous les mâles, de tous les maux. Ben, c'est un peu grâce à ce dit système-là que vous avez la possibilité, par ses lois et ses constitutions libérales, que son système politique imparfait est supposément traître à la nation, que vous êtes capable de vous rassembler, de créer vos 10 rassemblements communistes, de vous exprimer avec vos idées complètement folles, puis à créer votre parti politique. Pas pire comme système, quand même.
Pas pire, en plus, si on le droit,
ça s'en va. Voir que dans un mouvement, voir que dans une nation communiste ou dans un régime communiste, on aurait le droit de créer des partis capitalistes.
Ou même des religions.
Je serais curieux, voir. Est-ce que dans un régime, dans un Québec communiste, un rassemblement de 5, 6, 700 personnes à Montréal, ou même plus à Québec, on va être plus logique, là, pour un parti révolutionnaire capitaliste, serait autorisé?
Poser la question, c'est d'y répondre. Un État totalitaire ne supporte aucune compétition.
Exactement.
Donc, imaginez, il n'aime pas la concurrence dans toute manière. Puis le chaos engendré par l'économie de marché, puis la provision de capital, puis le salariat, puis la propriété est trop chaotique pour qu'il puisse, un temps soit peu, essayer de s'adapter. Mais lorsqu'on se donne des conditions, qu'on lit un peu, qu'on voyage un peu, puis qu'on ait un esprit critique qui n'a pas un barbu de 35 ans, que ça fait 800 fois, qui prend un cours pour avoir la permanence, pour avoir sa petite carte étudiante, pour aller dans un syndicat étudiant, parce que oui, j'en ai vu. Sont très nombreux, ceux qui font ça, puis qui ont un petit peu de cash parce qu'eux, ils ont un travail à part, ils les subventionnent assez pour qu'ils payent la bière aux petits jeunes. Parce que oui, en passant, c'est une secte. Ah oui, je veux dire, il y a les petits cadeaux, la petite bière, puis la petite fête après aussi, là. Venez, c'est le fun, le communisme. C'est une secte. Est-ce que aussi pire que les autres sectes religieuses.
Ben, je te pose la question, Sam. On va prendre un exemple de secte classique. Les Témoins de Jéhovah. Ah, j'ai dit le mot hanté. Mais ben, justement, est-ce que les communistes ne sont que des cellules rebelles sans trop connexion dans différentes nations, ou il y a une genre de société Watchtower centrale qui réunit un peu tout ça? Est-ce qu'il y a un certain organe central ou une genre de
Non, ils sont incapables. Il y a eu des mouvements internationalistes. Il y avait la GPU, à un moment donné, qui était un groupe de communistes de conseil, mais c'était tellement orienté sur l'internationalisme que les marxistes-léninistes ont quitté. Il y avait la 4e internationale, il y avait un 5e international. Bref, à chaque fois qu'ils essaient de réorganiser, que ça soit
On aime bien, il aime bien chanter l'international, mais l'international, c'est pas bon.
Ouais, un petit peu de misère. Tu sais, la concertation des luttes anticapitalistes, quand t'es beaucoup plus vert, ah, on sait bien, toi, t'es plus vert, tu défends pas la veuve et l'orphelin. Quand tu défends trop la veuve et l'orphelin, tu défends pas le travailleur, et ainsi de suite. C'est toujours tous les combats ensemble. Donc, c'est assez difficile. Puis, je vais vous dire ça. L'espérance de vie, je parle pas de l'espérance de vie de la mort de quelqu'un biologiquement, mais l'espérance de vie d'un militant, ça dure pas loin de 10 ans, en moyenne. À un moment donné, tu fais ta vie, tu as une blonde, tu as peut-être une maison, un appartement, des loisirs. Fait que l'espèce de... Ah oui! Alors, je me souviens d'avoir lu quelque chose qui date des années 70. Le militantisme, le stade suprême de l'aliénation. Ça faisait un clin d'œil à l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme de Lénine. C'est que le militantisme, stade suprême de l'aliénation, c'était tout à fait vrai. C'était un peu comme du surmenage au travail, parce que la personne ouvre son ordinateur pour régler ses dossiers. Je me sens pas du tout concerné là-dedans. Mais bref, avec le militantisme, c'était exactement ça. C'était que, de toute façon, Staline disait « Un bon bolchevique n'a pas de famille. » C'était emprunté de Nechayev, qui est un révolutionnaire nihiliste.
Puis qui a emprunté de Jésus. Là, il a quitté... vendez toutes vos possessions et suivez-moi. Ah oui. Je ne viens pas apporter un message, mais une épée pour que chaque frère se retourne contre sa mère et que les fils se retournent contre leur père. En tout cas,
c'est plus facile d'enlever la propriété quand t'enlèves tout aspect d'ego. C'est plus holiste. Donc, si tu, de toute façon, t'es pas un élément libre, t'es pas quelqu'un qui s'enrichit, t'es pas quelqu'un qui est autonome, tu vas dépendre, by the way, de ta tribu, de ta société, de ton état, de ton parti, de ton groupuscule, de ton collectif. Donc, t'es rien sans la secte, t'es rien sans la religion, t'es rien contre le communiste révolutionnaire que je suis, etc., etc. Que je suis, j'incarne le gourou d'une barbe. Non, mais c'est ça, c'est assez curieux.
Avant de terminer la soirée, pour ceux qui... Il y aurait peut-être des questions à nous poser dans le chat, feel free. Pour également les abonnés Patreon, vous avez le droit à une priorité. Si vous lancez un commentaire à la publication du débrief dans le Patreon de Yann et Frank, ça vous intéresse avant pour les 10 dernières minutes, avant qu'on vous laisse, s'il y en a qui souhaitent, on prend les super chats, bien évidemment. Et sinon...
Les Patreons, il y a quelqu'un qui me dit « Tu ouvriras ton Patreon, ma carte de crédit est en remplacement, fait que j'ai pas pu accéder au Patreon, ça tombe bien. Coordonnées mal chaussées. Ouais. » Mais c'est ça, il y a des commentaires sur Patreon, en tout cas, ce que j'ai entendu parler de...
Oui, ouais, j'en ai... En fait, c'est les mêmes deux que l'autre. En fait, un de Francis Hamelin, en fait, c'est grâce à lui, un de ces commentaires-là, qui nous a donné des informations sur Monsieur Monaghan. Et l'autre, en fait, c'est notre cher, je peux bien le lire, il mérite bien gros, après nous avoir donné le lien vers l'étude, M. Louis-Philippe Noël, hashtag le prophète productif.
Oui.
Simplement, en fait, je lis son commentaire, simplement pour atteindre leur utopie qui leur sont si chères. Cependant, en parlant de la création du nouveau parti communiste révolutionnaire, cependant, le libre choix politique est essentiel. La création d'un nouveau parti politique communiste est légitime. Mais il faudra continuer à dénoncer ces idolâtres mortifères de cette idéologie pour le moins questionnable sur le plan des droits humains, car le bilan en dit très long sur le communisme, en effet. Personnellement, je m'arrêterai de donner de l'exposure à ces marginaux. Oh, too late for that. Pour l'avenir...
Non, il faut absolument, en disant, ben, est-ce qu'on est content d'avoir au moins une société qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui est une des plus confortables au monde, malgré les nombreux défauts, ben, c'est parce qu'ils ont de la misère à répondre aux mythes, à leurs propres mythes, parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté. C'est ça, c'est jamais ça. C'est l'égalitarisme absolu, la planification centrale totale, le mythe que la valeur du travail comme seul déterminant de la valeur, ce qui est, à mon sens, complètement absurde, l'effondrement inévitable du capitalisme. Ça, c'est bon, ça. C'est un peu comme l'apocalypse climatique, puis l'apocalypse selon Jean, c'est qu'il y a toujours une grande fin, une grande messe. Les péquistes ont fait ça avec leur messe en disant « on sait bien le soir du 3 ou 4 millième référendum ». C'est un peu ça, c'est les lendemains qui chantent le mythe de l'inévitabilité de la révolution prolétarienne. « Ah, ça va pas bien dans le monde, donc c'est sûr et certain que tout, comment dire, prolétaires de tous les pays, unissez-vous », puis la mythe de la disparition de l'État. Encore là, c'est une réponse même aux libertariens. Ben, écoutez, que l'État disparaisse demain, puis que les gens qui sont les possédants, non pas de la propriété, mais du pouvoir, se délibèrent de leur propre pouvoir, faut pas être non plus leurré.
Non. Je finis le commentaire de Louis-Philippe Noël. Pour l'avenir, si nous voulons que notre mouvement libéral classique progresse, il faut mieux choisir un parti comme le Parti conservateur du Québec afin qu'il puisse grandir, travailler sur son programme, bien vendre et défendre ses idées afin d'évoluer plutôt que d'examiner attentivement les options voisines en regardant dans le champ extrême-gauche constamment. La droite doit se tourner vers l'avenir et apprendre à laisser derrière / ignorer les petits partis marginaux. S'attaquer aux marginaux donne l'impression d'être l'opposé équivalent dans la population générale. Tout à fait d'accord.
La seule droite qui s'organise, c'est la droite réactionnaire puis traditionnelle. Les autres travaillent. Les autres se font des compagnies. Ils sont bien plus intéressés à faire une convention entre actionnaires que de militer pour un parti en fonction d'un seul critère. Je veux dire, la droite économique au Québec n'est pas organisée. Est-ce qu'elle va l'être? Sincèrement, je pense pas. Je suis très cynique, là, mais c'est son est lundi.
Ouais, c'est ça. Calme-toi, Garfield. Tranquillement,
Garfield, ce n'est pas.
Ouais, Garfield Sénéchal. Une question Patreon de la part de Yannick Alexandre. Merci pour ta question. Y a-t-il un régime communiste qui s'est installé sans un bain de sang?
Oui. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que le bain de sang est arrivé par après.
Donc, c'est pas arrivé.
Non, non. Ça, c'est par un bain de sang. Ben, la commune de Paris.
Sans un bain de sang.
Non, non, mais sans. J'imagine que c'est à cause du bain de sang par la suite. Non, mais la commune de Paris. La commune de Paris, mais elle t'a fait même pas un an. Elle a été réprimée par...
C'est quoi, Robespierre puis Banny?
Non. Ça, c'est en 1789. Moi, je parle de 1871.
OK.
Les Prussiens sont arrivés dans le champ.
Excusez-moi, j'ai mal
aimé. Ça n'a pas bien arrivé. Puis il y a le communisme primitif. Les sociétés chasseurs-cueilleurs. Mais ça...
Ouais, mais là...
C'est ça.
Il n'avait même pas encore inventé la fossile.
Exact. Ben, il y avait la pierre.
Selon moi, pour être communiste, il faut au moins que le marteau et la fossile soient inventés dans ma tête. Les considérer comme...
Ben, c'est ce que Marx pensait. Marx disait que la Russie ne serait jamais révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait de révolution industrielle comme l'Angleterre, comme la Prusse, comme la France, etc. Mais il s'est trompé parce que Lénine est arrivé et il a fait sa révolution. Puis par la suite, c'est là qu'ils ont industrialisé. Mais bon, ça a donné ce que ça a donné. Des morts de famine par million. Tu sais, c'était l'Holodomor aussi en Ukraine, mais ça, c'est plus avec Staline. Mais bon. Passons vite vraiment les questions parce que je sais qu'il y a plusieurs.
Oui, mais pour l'instant, c'était la seule qu'on avait au niveau des Patreons. Je ne sais pas si tu as certains commentaires sur le chat que tu voulais répondre spécifiquement.
La philosophie des Lumières, ben, tout à fait. Ben, le libéralisme est né de ça. Le libéralisme, un peu, est pour la volonté des droits de l'homme, justement, est né dans le bain de sang. Là, je veux dire, la Révolution française.
Ils ont tellement trippé ces lumières qu'ils se sont aveuglés eux-mêmes, Sylvain. Hein?
C'est spécial. Le communisme ne peut s'appliquer à moins d'avoir toutes les ressources utiles à portée de main, sinon il va falloir trouver des solutions d'échange et créer un marché financier. Ben, Alexandre Bourgeois, c'est pour ça que Lénine avait instituer la nouvelle politique économique, si je le traduis bien en russe, en 1921, parce que c'était tout en train de crever. Il n'y avait pas les conditions, il n'y avait pas les conditions gagnantes pour faire l'Union soviétique pour qu'il y ait assez d'industrialisation et de production de masse pour qu'on puisse donner...
Ils n'avaient pas leur Lucien Bouchard, ça n'a pas marché. Ouais.
Si je me considère comme une chaise de plage, est-ce que je peux refuser toute taxe étant donné qu'une chaise de plage n'a pas de taxe? La réponse est non, mais ceci n'est pas un conseil juridique.
Ouais, comme dit. Et ceci n'est pas une émission de Denis Lévesque. Non plus.
Ah oui.
C'est magique. Ça me rappelle la madame. Là. C'est-tu l'ancienne médecin ou l'ancienne fonctionnaire?
Will not tell anyone. La Russie de Poutine est-elle capitaliste de toute façon? On dit qu'on tue les opposants politiques dans la Russie aujourd'hui, hier et demain. Mais là, il faudrait qu'on ait un podcast complet sur la culture politique russe. T'as eu 1000 ans de tsariste, t'as eu 90 ans de communiste, et t'as eu Yeltsin et Poutine. Je viens de te résumer des la première dynastie suédoise, quasiment des premiers princes de les premiers princes russes à aujourd'hui, c'est complexe parce que la Russie, ce qui est particulier, c'est que quand l'Union soviétique s'est effondrée, il y a eu des oligarques qui ont un peu pris le pouvoir, fait que c'est devenu un oligopole où ce que tu as eu des très très riches, des milliardaires qui se sont greffés au parti qui est presque unique, Rossiya Radina, Russie Unie. Puis c'est pour ça que Poutine et ses amis. Ben en fait, c'est pas un État communiste, c'est pas un État capitaliste, c'est un État mafieux. Comme l'Ukraine en passant, mais à des proportions différentes et des couleurs différentes. C'est des républiques corrompues à l'os. Où ce que, tu sais, tu dis, on est dans un corporatisme où les autres professionnels au Québec, etc., etc., puis qu'il y a beaucoup de réglementations, ben en Russie, ben la corruption, au moins, elle est apparente. C'est-à-dire que tu vois le mal, tu vois la malle d'argent passer dans la rue, tu sais. Militantisme égale fanatisme, ben je sais pas pour vous, mais que ça soit un parti bourgeois ou communiste, reste que mon équipe est meilleure que la tienne. Ma religion est meilleure que la mienne, la couleur de mon chandail est meilleure que la tienne.
Notre logo est meilleur que le tien.
Exactement, c'est toujours ça, tu sais. Il y en a que je lirai pas parce que c'est vulgaire.
Non, c'est sûr.
Mais oui, sniff ton mon doigt, j'ai hâte de lire ton texte sur Patreon. Mais oui, faudrait sincèrement passer plusieurs heures pour déconstruire chacun de leurs choses, mais si vous voulez faire des articles ou si vous voulez commenter, c'est etc., ça, on peut continuer à discuter dans le film.
Et en terminant, la raison pourquoi on voulait parler de ça, comme contrairement à Louis-Philippe Nguyen, on ne voulait pas nécessairement donner plus qu'il fallait, à part bien sûr présenter l'existence, la réelle existence, le fait que ce n'était pas une joke, et qu'il y en a beaucoup, de plus en plus, on en voit à Montréal, on en voit à Sherbrooke, et là, vous avez vu tantôt qu'il y a une conférence à Trois-Rivières dans un cégep, donc ça se peut que dans un cégep près de chez vous, il y ait de quoi d'équivalent. Notre but, pas vouloir créer de la censure vis-à-vis de ce parti-là, mais comme dit Louis-Philippe, il faut garder quand même un œil avisé, pas donner trop d'importance, bien évidemment. Ça peut mourir de sa belle mort par lui-même, ça va être parfait. On s'en plaindra pas. Mais c'est ça. Je pense que c'était nécessaire d'en parler et de démystifier l'utopique du réel avec cette
si vous voulez mettre des commentaires sous la vidéo, sur le canal de Yann et Frank ou même sur le blond modéré, ça va me faire un grand plaisir de discuter avec vous. Je pense que la conversation peut être très longue. Moi, je me souviens, il fut un temps, jadis naguère, je le dis encore une fois, les forums. Écoute, le communisme, ça se prenait pas pour des 7-up. On faisait des textes contre ces militants-là qui étaient assez saucés du bocal. Mais au moins, contrairement aux révolutionnaires d'aujourd'hui, au moins, ils discutaient d'économie communiste. Bref, ouais. C'est quand même spécial.
Comme les communistes et dans Age of Empire, les forums sont essentiels, n'est-ce pas ça? Ah, fallait bien que j'en sorte une. Avant la fin de la soirée. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Sérieusement, vous êtes plus de 150 qui nous écoutent live et tous ceux qui vont nous écouter en différé par la suite. J'espère que vous avez apprécié ce débrief cette semaine. On se revoit dans un autre épisode de la semaine prochaine pour un autre. On a quelques petits projets d'idées qui nous trottent dans la tête, plus pour les gars de pop culture et geek que nous sommes. On vous en dit pas plus. On vous laisse ça mijoter comme un bon bouillon de poulet. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bonne soirée tout le monde.
Bonne soirée.